Ça va changer son régime ici.
Ah, ça va changer, surtout que mon mari est fromager et qu'il s'inquiète un peu de savoir s'il tolère la lactose parce que c'est quelque chose qu'en Thaïlande, ils connaissent pas trop. Donc, ce serait le comble pour un fils de fromager qu'il soit intolérant au lactose. On va pas lui faire une fondue le premier soir où il arrive. Et puis, on verra.
Vacarme. Vacarme.
La voix des adoptés.
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
Toute cette semaine dans Vacarme, nous parlons de l'adoption internationale, à la fois du point de vue des adoptés, mais aussi du point de vue des parents. Les personnes seules ou les couples qui souhaitent adopter un enfant sont soumis à des critères très stricts et leur aptitude à être parent est évaluée par des psychologues ou des assistantes sociales. Entre le dépôt d'une requête en adoption et l'arrivée d'un enfant, il s'écoule souvent plusieurs années, parfois plus de 5 ans. Un temps d'attente ponctué d'entretiens et de formations obligatoires, comme à Neuchâtel, où nous découvrirons comment on sensibilise les futurs parents au déracinement que va vivre leur enfant. Mais d'abord, nous nous rendons chez Amandine, une fribourgeoise de 38 ans. Dans quelques mois, elle partira en Thaïlande pour aller chercher son fils adoptif. Arriver et subir, reportage Jonas Paul, réalisation Jean-Daniel Motet.
Le cri un peu.
Bah là, on voit qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose qui se fait habituellement de fêter leurs anniversaires en fait dans cet orphelinat. Je sais pas du tout en Thaïlande ce que c'est la coutume, les jours d'anniversaire. Ouais, j'ai aucune idée en fait.
Comment il s'appelle cet orphelinat ?
Pattaya Orphanage. Là, moi, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression que c'est, je dirais pas une mise en scène, mais...
D'un paquet que vous lui avez envoyé pour
oui,
son anniversaire.
Oui, un paquet qu'on lui a envoyé et qui, miraculeusement, est arrivé le jour pile de son anniversaire. Donc, je ne sais pas comment on a fait, parce qu'on ne sait pas vraiment combien de temps ils mettent pour arriver.
Et c'était quoi ?
J'ai choisi un petit pulse et puis j'ai mis 1,5 kg de sugus dans le paquet où j'ai lui expliqué qu'il pourrait partager avec ses copains, comme ça.
Le paquet de bonbons est presque aussi grand que lui. Hein. Il a quel âge ?
Il vient d'avoir 3 ans.
Et il ressemble à quoi, à votre fils, alors ?
C'est le plus beau. C'est, un petit mec vraiment tout mignon, quoi. Chaque fois que je reçois des photos de lui, j'ai l'impression qu'il pousse de 20 cm et je me dis « Stop, arrête de grandir, j'ai vraiment envie que tu sois avec nous, là. » Alors, voilà.
Vous auriez pas envie de l'appeler tous les jours ?
Ah, j'aurais envie de l'appeler tous les jours, c'est sûr, mais apparemment, voilà, c'est quelque chose qui se fait pas. Donc, on prend notre mal en patience et on attend, puis on espère que ça va pas durer encore trop longtemps.
4 mois.
Voilà, normalement, avant le mois de décembre, on devrait partir, mais...
Vous l'avez, la lettre qui vous annonce que...
Non, on nous a annoncé par téléphone.
C'était ouais. Comment ?
Ah, c'était...
Racontez ça un peu.
Paf ! Le téléphone, miracle. Et puis, j'ai bien fait de décrocher, parce que c'était le bureau genevois d'adoption. Qui m'a dit « Est-ce que vous êtes bien assise ?» J'ai dit « Oui, je suis bien assise, pourquoi ?» Et puis là, elle m'a dit « Parce qu'on a une proposition d'enfant pour vous, donc on vous envoie son dossier par mail, comme ça vous prenez le temps de le lire comme il faut et tout. Vendredi, on se rappelle. » Mais on avait ce choix de dire « non, en fait...
» On veut un autre.
Voilà, c'est un peu ça.
Et pourquoi vous avez tout de suite dit oui ?
Ah, mais parce qu'en voyant sa photo, pour moi, c'était clair et net que, je sais pas, si c'était lui, c'est que ça devait être lui. Et il y a plein de choses qui me font dire que c'était lui. Donc, il est du même jour que sa tante. Il a 4 mois de différence avec son seul cousin actuel. Non, tout de suite, les deux, on s'est regardés et puis on a dit, non, mais c'est lui, quoi.
Parce qu'il correspondait à quoi que vous attendiez, par exemple ?
Que ce soit un enfant en bonne santé. Et puis là, on a aussi pu choisir. On avait demandé à un enfant entre 0 et 3 ans.
Et les pays, ça vous était égal ?
Alors, on aurait été prêts à accueillir des enfants de n'importe quelle couleur. Après, c'est vrai que moi, j'avais plutôt une préférence pour plutôt type européen ou asiatique. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'Haïti et le Burkina Faso, c'est deux pays qu'on a assez vite enlevés de notre liste. Donc après, il y a les États-Unis. Ça ne nous a pas donné envie. On nous a expliqué que c'était assez compliqué, Il y avait la Russie, pareil, on nous a dit qu'au niveau administratif, c'était hyper compliqué, que, enfin, voilà, ils attendaient beaucoup de retours de la part des parents adoptifs et tout. Alors, tandis que la Thaïlande, là, ils attendent, sauf erreur, 3 rapports, une fois que l'enfant est chez nous, 3 rapports dans les 6 mois qui suivent. Et après, c'est tout. Il y avait les Philippines. À la base, on était parti pour adopter une fratrie aux Philippines. Et en fait, il s'est avéré que c'était exceptionnel d'avoir des jumeaux. Donc, c'est généralement un grand et un petit. Et puis que le grand était très grand. Et c'est vrai que nous, on s'était tout de suite mis d'accord avec mon mari de ne pas forcément adopter un enfant trop grand. Comme nous, on avait un petit coup de cœur quand même pour les pays asiatiques, il restait la Thaïlande. Et puis, on s'est dit, OK, on part pour la Thaïlande.
Pourquoi le coup de cœur ?
Ça fait des très beaux enfants, des très beaux adultes. Et alors lui, je pense que c'est de loin un des plus clairs, mais j'ai tout de suite trouvé que les enfants là-bas étaient magnifiques. Et puis, je sais pas, les paysages et tout ça, ça m'a vraiment plu tout de suite.
Pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas pour vous installer ?
Adopter ? Alors nous installer là-bas, non, quand même. On a notre vie ici en Suisse. Et,
Pour votre fils, ça aurait pu être plus simple ?
Je ne sais pas du tout.
Est-ce que c'est lui qui a besoin de vous ou vous qui avez besoin de lui ?
Les deux. Les deux. Ouais, j'ai autant l'impression qu'on a besoin de lui que lui, il a besoin de nous.
Mais si on vous avait proposé un enfant noir, vous auriez aussi accepté ?
Alors c'est vrai que ce n'est pas le premier pays sur lequel... Parce qu'on aurait pu, il y avait Haïti en l'occurrence dans la liste des pays où on aurait pu adopter. Et puis c'est vrai que quand on voit ce qui se passe actuellement à Haïti, je me dis que finalement... C'est triste pour eux, mais je pense que ça aurait prolongé encore de bien des mois, voire des années, notre attente. Parce que vraiment, là, les pauvres, ils subissent en ce moment.
Et l'adoption en Suisse, ça aurait été possible ?
L'adoption en Suisse, ça aurait été possible. D'ailleurs, on avait déposé aussi un dossier. Il faut savoir que dans une procédure d'adoption, c'est du moment qu'une proposition d'enfant a été donnée, donc que ce soit pour la Thaïlande ou pour la Suisse, ça bloquait automatiquement... le deuxième dossier, en fait. Donc, du coup, maintenant qu'on a reçu une proposition de la Thaïlande, ils ont, du coup, bloqué notre dossier en Suisse. Donc, nous, on n'est plus du tout dans la liste des parents qui pourraient adopter éventuellement un enfant en Suisse.
Comment il s'appelle ?
Alors, il a un prénom thaïlandais qui est Wanchana. Quand on a su qu'il s'appelait Wanchana, c'est un magnifique prénom. Mais voilà, on s'est dit peut-être un petit peu trop asiatique à notre goût. Donc, du coup, on est parti du principe qu'il garderait son prénom, deuxième prénom. Et puis nous, on lui donnera un prénom qu'on aura choisi.
Pourquoi il ne faut pas que ça soit trop asiatique, son prénom ?
Après, c'était un choix de notre part. Voilà. Et puis, c'est vrai que mon mari, la première fois qu'il a entendu le prénom, il a dit « c'est un très joli prénom, mais moi, un prénom qui finit par A, ça sonne très féminin. » Alors voilà, il a dit « si, on ne veut pas qu'il soit trop embêté à l'école et tout. » Voilà.
Et comment lui, il va ressentir le fait que tout d'un coup, on l'appelle différemment, qu'il est quelqu'un d'autre ?
Aucune idée. On va vraiment le découvrir.
Vous avez appris quelques mots de thaï ?
Pas du tout. Quand on s'en raconte, on part. Je pense qu'on va, dans l'avion, j'imagine, apprendre les rudiments. Bonjour, au revoir, comment vas-tu ? Ce genre de choses. Mais non, on n'a pas imaginé apprendre plus que ça.
Et qu'est-ce que vous savez de sa culture thaïlandaise ?
Alors moi, personnellement, je suis jamais allée en Thaïlande. Mon mari, il y est allé une fois, mais il y a fort longtemps. Et puis, c'était dans un contexte un peu différent. C'était plus festif que culturel, je dirais. Donc lui, il a une vague petite connaissance de la Thaïlande. Moi, pas du tout. Après, j'ai acheté pas mal de lectures et j'ai regardé pas mal de documentaires. Donc, je pourrais pas dire que je suis une pro de la culture thaï.
Est-ce que vous allez... mettre à disposition de votre fils un élément qui lui rappelle la Thaïlande, ou ça aura aucune place ici ?
Le but, c'est pas qu'on amène la culture thaï ici. Enfin, après qu'il y ait 2-3 touches comme ça, ok, mais donc, mais du coup, c'est en bas. Donc, on verra en bas.
On peut y aller.
On peut y aller.
On est juste sous l'affiche de votre film, Abandine Gay. On est ici à Strasbourg, devant le Cinéma Star, où le public va venir peut-être vous provoquer un peu ou vous embêter un peu, parce qu'en lisant votre livre, Une poupée en chocolat, tout à l'heure, j'ai réalisé qu'aux séances de dédicace de ce livre, il y a parfois des parents adoptants qui viennent vous demander conseil, et c'est pas facile de garder votre calme.
C'est vrai que souvent dans les événements autour de l'adoption, il peut arriver que je me retrouve avec des parents qui viennent me parler, voilà, me rapporter des propos racistes ou me dire des choses qu'ils observent chez leurs enfants qui montrent en fait que la personne adoptée ne va pas bien du tout. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué pour moi de, en même temps, arriver à faire passer voilà, mon propos politique et en même temps de garder en tête qu'il y a une personne adoptée dans cette famille à qui ça ne bénéficiera pas si je m'énerve, par exemple. Si je m'énerve, j'ai coupé la conversation. Et donc, du coup, je ne peux pas aider la personne adoptée.
Je fais allusion à une mère adoptive qui s'inquiétait de voir son fils noir fréquenter d'autres noirs quand elle deviendra plus grande et elle sous-entendait des personnes pas fréquentables.
Oui, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu qui est celui de la préparation des candidats à l'adoption, des parents adoptants. Par exemple, parfois, des travailleurs sociaux peuvent dire aux candidats à l'adoption « Est-ce que vous êtes prêt à adopter un enfant de toutes origines ?» etc. Mais comme la question n'est pas précise, même parfois, les gens ont peur de passer pour des racistes. Et donc, au lieu de dire « Mais c'est vrai que je fréquente pas de noirs, par exemple. » Je sais pas, de dire quelque chose voilà, d'honnête. Effectivement, je n'ai pas d'amis noirs. Effectivement, j'ai jamais été dans un pays africain ou dans la Caraïbe, etc. Ou j'ai même jamais été, si on est dans le cas de la France, dans une ville comme Saint-Denis où je sais qu'il y a une très forte population noire, etc. Et peut-être que simplement le fait qu'on vous ait posé une question simple et précise, quel est votre entourage? Est-ce que vous pensez que vous êtes bien équipé pour accompagner un enfant noir, pour vous occuper de ses cheveux, etc.? Si on vous dit juste, est-ce que vous êtes ouvert avec toutes les origines et que vous répondez oui, puis vous vous retrouvez avec un enfant noir, et puis en fait, quand cet enfant grandit, mais même vous, vous prenez conscience de vos a priori racistes, ou pire, vous n'en prenez pas conscience et vous venez me les déverser à moi, ce qui était effectivement arrivé lors d'une séance de dédicace pour un autre projet. Et là, effectivement, je me dis, mais là, il y a un petit garçon noir dans cette famille. Si moi, j'arrive pas à passer le message à sa mère, que c'est pas possible d'avoir ce genre de représentation parce que bien sûr que lui, comment est-ce qu'il peut construire une image de lui-même qui est positive si ses parents pensent que tous les noirs, sauf lui, sont des mauvaises fréquentations? Mais c'est aussi quelque chose qui à terme va menacer l'équilibre de cette famille parce que lorsque l'enfant va se rendre compte que ses parents ont des a priori racistes sur tous les noirs sauf lui, il va considérer aussi que c'est une forme de trahison parce que ses parents n'ont pas su se remettre en question, déconstruire leurs a priori racistes et être justement de bons alliés, ou moi ce que je dis plutôt des complices, des gens qui deviennent des traîtres à leur race, qui s'engagent activement dans l'antiracisme. Et donc c'est très important de forcer les candidats à l'adoption à se poser ces questions-là bien en amont. Ça ne devrait pas arriver dans une séance de dédicace. Ça devrait arriver quand on se prépare à adopter. Même quand vous avez une famille qui n'est pas raciste, même quand vous avez une famille qui, comme la mienne, avait déjà une sociabilité noire avant notre arrivée à mon frère et moi, qui est une chose qui change énormément et qui devrait, pour moi, être obligatoire, vous ne devriez pas adopter des enfants, quelles soient leurs origines, hein, des enfants latinos, autochtones, asiatiques, etc., si vous n'avez jamais fréquenté des gens de leur communauté d'origine, si vous n'avez jamais visité leur pays, si vous n'êtes pas à l'aise, même, en présence de noirs. Je cite aussi cet exemple d'une travailleuse sociale française qui, pour provoquer les candidats à l'adoption, leur disait dans les entretiens préparatoires, mais est-ce que vous avez conscience que les beaux bébés noirs deviennent des grands nègres? Et je pense que c'est très important. C'est-à-dire que la même personne qui va tenir son sac à main proche d'elle dans le métro quand je m'assois va s'émerveiller 10 minutes plus tard sur un bébé noir dans une poussette. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde. Vous pouvez être dans la démarche la plus saine du monde, etc. Mais vous faites partie d'une société dans laquelle il existe des discriminations, des violences. Et donc, il ne s'agit pas simplement de vouloir bien faire, il s'agit vraiment de s'engager. On doit être dans une pratique antiraciste, on doit être dans une connaissance très claire de ce que vont vivre ces enfants s'ils sont noirs, arabes, asiatiques, latinos, etc. Et donc ça, voilà, pour moi, c'est aussi ça l'enjeu, c'est est-ce que vous êtes les personnes compétentes pour accompagner votre enfant tout au long de sa vie ?
Bah, on commence déjà ici avec le petit drapeau suisse et le petit drapeau thaïlandais sur la haute de la cuisinière. Derrière vous, il y a le tableau éléphant qui n'est encore pas installé. Voilà. Et puis sur la table du salon, on a un petit Bouddha.
Il est bouddhiste ?
Il est bouddhiste, notre fils, oui.
Il pratique ?
Alors je pense pas dans l'orphelinat où il est parce que c'est un orphelinat catholique. Je pense pas qu'il pratique à mon avis.
Qu'est-ce que vous savez de lui en fait ?
Ah, on sait tout son développement depuis qu'il est né jusqu'à maintenant. Il nous explique par exemple qu'actuellement il arrive à empiler 9 plats. Puis sinon, on connaît tout son historique, on a toute son histoire de où il vient, ses parents, tout ça.
Et c'est quoi son histoire ?
Alors, son histoire, je ne sais pas en fait si mon mari est d'accord que je la raconte en fait, c'est ça. Donc, voilà. Oui, j'ai oublié de... il y a le... Le petit guide Thaï Attitude, des usages et des coutumes thaïlandaises. Voilà.
Mais... On l'ouvre.
Ah, on peut l'ouvrir, bien sûr qu'on peut l'ouvrir. Par exemple, les minorités montagnardes, que ben voilà, il y a beaucoup de groupes ethniques en Thaïlande, et puis ils nous parlent de chaque groupe ethnique.
Votre fils vient de quel groupe ethnique, vous savez ?
Non, du tout. On sait de quelle région il vient, mais alors après, non, le groupe ethnique, je ne sais pas.
Là, son arrivée dépend de quoi maintenant ?
Justement de cette date qu'ils doivent nous donner des autorités thaïlandaises. Je pense qu'on doit attendre que notre dossier soit sur la pile pour qu'ils nous appellent.
Une affaire de mois.
Bah, comme je disais, normalement...
3-4 mois.
Ouais, normalement, avant le mois de décembre, on devrait partir.
Et vous serez reconnaissante si il vous accepte ? Parce qu'il n'a rien demandé, lui.
Ah non, il n'a rien demandé du tout. Ah non, mais peut-être qu'il va nous détester, mon Dieu. Non, je ne sais pas. Nous, on va faire tout notre possible pour qu'il soit, le mieux possible chez nous. Mais après, bah, on sait que des fois, l'adoption, ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on aimerait. Mais non, on espère qu'elle se passera au mieux. Après, bah, c'est possible qu'on nous a expliqué que les premiers jours, ou voire les premières semaines, il y a eu un rejet de l'un ou de l'autre des parents. On nous a préparé à ça aussi, que des fois, voilà, il y a un rejet de la part de l'enfant, soit du papa, soit de la maman. Alors, on verra.
Vous imaginez qu'il a quelle vision d'ici ? Et qu'est-ce qu'on lui dit de vous ? Vous savez ça ?
Pas du tout.
Ici, on est à Boudry, dans le canton de Neuchâtel.
Oui.
Comment vous les observez, là, les couples qui se sont déjà assis en attendant que ça commence ?
C'est des soirées, quand même, où on vient remuer pas mal de choses. Hein. C'est pas toujours évident.
Et l'association ici s'appelle Adoptons-nous, où on s'adopte dans les deux sens.
Absolument.
Alors, je vous propose de faire un petit exercice. C'est vrai qu'en tant que parent adoptant, hein, c'est, ben voilà, il y a cette joie d'aller chercher cet enfant, etc. Mais il faut bien se rendre compte que cet enfant qui est en orphelinat, le moment où les parents adoptifs déboulent, pour lui, c'est un moment de stress énorme. Parce que c'est le moment où on le prend de son milieu, dans lequel il a vécu parfois plusieurs années. Tout d'un coup, tout ça, ça disparaît. Et du coup, on vous propose un petit exercice. Vous êtes Julie ou Simon, vous avez 18 mois. Le service de protection de la jeunesse du canton de Neuchâtel vous a déclaré adoptable car votre mère biologique n'a pas les capacités nécessaires pour assurer votre santé, votre sécurité et votre développement. Les travailleurs sociaux vous cherchent une famille adoptive en Suisse depuis 6 mois, sans succès. En revanche, une famille tanzanienne souhaite vous adopter. Vous prenez donc l'avion avec un accompagnant suisse et 20 heures plus tard, vous arrivez très fatigué à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie. Comment c'est pour vous ? Alors, je vous laisse travailler. On vous laisse, quoi, quart d'heure ?
Qu'est-ce que vous écrivez ? Vous pouvez dire.
Alors, oui. Donc, la première question, c'est l'accompagnant vous présente votre nouveau papa et vos nouvelles mamans. Que pensez-vous d'eux ? Donc, la première chose, c'est qu'ils sont étranges, qu'ils sont différents de moi, je ne les connais pas. La seconde question, c'est l'accompagnant qui parle français dit repartir par le même avion et vous laisse rapidement. Quelles sont vos émotions ? Donc, j'étais en train de penser à ces émotions.
À l'aéroport, toute la tribu Maasai chante, danse et fait de la musique pour vous accueillir et de vous toucher heureux. Donc moi j'ai 18 mois, j'écris pas assez vite, attendez, je sens une attention sur moi et m'interroge sur les intentions de tout ce monde. Me veulent-ils du bien ? Chaque personne de la tribu vient voir le petit Suisse. Ces personnes vous touchent, vous parlent, vous embrassent, partout sur le visage. Certaines pleurent et vous prennent dans leurs bras en vous serrant. Comment vous sentez-vous? Comment réagit votre corps? Avez-vous envie de rire, de pleurer, de les frapper, de fuir, de vomir, de dormir? Je resterai tétanisé et dubitatif. Pourquoi pas au fil du temps qui passe, me sentir rassuré et participer à ces émotions plutôt positives. Pas évident de se mettre dans la peau d'un bébé de 18 mois. Hein. Vos nouveaux parents vous parlent en Maasai. Que vous disent-ils? Sont-ils gentils ou non? Comment le savoir? Comment comprendre ce qu'ils veulent que vous fassiez? Eh bien, je pense que je ne comprendrai rien.
Et vous?
Pareil. Vraiment beaucoup de peur et puis de repli. Puis, ouais, subir, c'est le mot, je crois, vraiment.
Et comment vous allez faire pour atténuer cette sensation-là quand votre enfant adoptif va arriver?
Je crois en ayant l'humilité de dire qu'on grandira avec lui.
Ouais, je pense que c'est important d'arriver à se mettre à sa place et puis de ne pas se laisser submerger par nos émotions de joie à nous. C'est de comprendre que lui, il ne vit pas ça. Et puis de faire en sorte de ne pas trop extérioriser nos émotions à nous, mais plutôt de nous adapter à ses besoins.
À son rythme.
À son rythme.
Mmh. Mmh.
Puis de veiller
à ne pas l'étouffer. C'est vrai que ça sera important qu'on se remémore tout ce qu'on voit ce soir. Et tout ce qu'on peut lire à côté aussi pour accueillir cet enfant, quoi.
Le soir même, ils vous servent un plat typique tanzanien de l'anguma, une bouillie composée de haricots accompagnée d'une tasse de sang de vache bien chaud. Quelle est votre réaction? C'est trash.
Pour ma part, en me mettant à la place de ce petit enfant, je m'appelle Simon à la base. Dans le meilleur des cas, mes parents adoptifs, ils vont garder mon ancien prénom, mais ils vont en tout cas pas le prononcer de façon reconnaissable. Et dans le pire des cas, ils vont m'attribuer carrément un autre prénom, et puis j'aurai peut-être la pression d'être une autre personne. Et puis ce qui va peut-être encore me pousser d'autant plus à 20 ans à savoir d'où je viens, quelle est mon histoire, quoi.
C'est...
Donc voilà.
Ouais.
Le lendemain matin, l'une de vos deux mamans jette votre t-shirt et vos autres vêtements. Elle vous habille avec une robe de laine nommée Rubella. Elle vous rase la tête et vous coiffe d'un joli bijou de tête comme vos nouveaux frères et sœurs. Êtes-vous reconnaissant? Vous trouvez-vous beau ou belle? Alors moi, j'imagine que, incommodé par ces nouveaux apparats, je les arrache. 20 ans plus tard, où êtes-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Ben, je suis un berger Maasai. Je suis un berger Maasai. Je bois du sang de vache chaud. De vache chaud. Et fais la transhumance entre la Tanzanie et le Kenya.
Vacarme.
Voilà. Voilà pour l'exercice.
C'était un reportage de Jonas Paul réalisé par Jean-Daniel Mottet. Laissez-nous vos messages au 058 236 236 0. Êtes-vous, vous aussi, dans l'attente d'un enfant adoptif? Comment préparez-vous sa venue? Quelle place laisserez-vous à sa culture d'origine, à sa langue? Garderez-vous son prénom? Notre numéro, c'est le 058 236 236 0. Nous diffuserons vos messages dimanche dès 9h dans les Échos de Vacarme.
Vacarme? Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Stéphanie Coudray et Diane Dufaux.
Demain, nous nous intéresserons à la question du lien aux origines.
Je comprends pas comment c'est possible, en fait. Pourquoi est-ce que ma mère biologique m'a donné naissance, puis même si elle n'avait pas les moyens de me garder, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Puis pourquoi est-ce que mes parents adoptifs sont tombés sur moi? Ils auraient pu tomber sur quelqu'un d'autre. Je comprends pas trop ça.
Un beau bizarre, un reportage à découvrir dès 13h dans Vacarme.